Eh bien, mes chers amis, nous démarrons cette deuxième conférence, suite de la première. J'espère, dans ce cycle de trois conférences, arriver à vous donner une vision synthétique du libéralisme et en même temps vous montrer qu'on peut prévoir, l'évolution prochaine de la société avec une quasi-certitude, disons. Une fois que les mécanismes, la mécanique est bien démontée, qu'on a bien compris comment elle fonctionne. Alors la dernière conférence vous rappelait le premier paradoxe du libéralisme. Le libéralisme est plein de paradoxes. Une conception de la vie en société qui est une conception athée ou au moins agnostique. Tous, on vit en société comme si Dieu n'existe pas. Et pourtant, cette société a une origine, le libéralisme a une origine religieuse. C'est ce que nous avons vu la dernière fois avec Martin Luther. Quand on étudie le protestantisme sous son aspect religieux, on va insister sur le libre examen. Mais quand on l'étudie par son effet social, c'est d'autres aspects de la doctrine de Luther qui vont avoir un impact. C'est-à-dire que quand on fait rentrer dans la loi ou dans la mécanique sociale un certain nombre d'idées, elles ont des conséquences dans le fonctionnement de la société. Il faut bien avoir une conception bien scientifique de la société. Quels sont les points principaux qui ont, je résume ma conférence de la dernière fois, les points de la doctrine de Luther qui ont le plus gros impact, qui sont le plus lourd de conséquences sociales. Premièrement, la foi sans les œuvres. Et vous avez saisi la conséquence. Comme nos actes n'ont plus rien à voir avec le salut éternel, qu'est-ce qu'on va faire sur la terre? On va tâcher de s'enrichir, tant qu'à faire. Il vaut mieux être riche et bien portant que d'être pauvre et malade. Voilà. C'est un peu cocasse, mais je vous assure qu'au bout de deux siècles, des gens, quand la religion, le fondement de la convivialité sociale est le luthéranisme, de façon fatale, l'activité humaine va s'orienter vers la production de richesses. Deuxièmement, dans la doctrine de Luther, deuxième aspect qui a un gros impact social, pas d'homme meilleur que les autres. Pas d'homme meilleur que les autres. Quand Luther dit que tous les hommes sont mauvais, profondément pourri par le péché originel, en gros, excusez-moi d'être vulgaire, mais vous vous rappelez la conférence d'hier, que l'homme c'est de la merde, eh bien, c'est la même chose que dire tous les hommes sont bons. Socialement, que vous affirmiez que tous les hommes sont mauvais, vous affirmiez que tous les hommes sont bons et que la société ne les rend pas meilleurs, c'est identique. Ça fonctionne pareil dans la société, ce genre d'affirmation. Et vous avez comme conséquence, à terme, l'apparition de la notion de droit de l'homme. Je vous ai expliqué la dernière fois que cette notion de droit de l'homme qui a un air sympathique et chrétien à première vue, en réalité c'est violemment antichrétien parce qu'on considère qu'il n'y a pas d'homme vertueux. On considère à égalité l'homme avec les mêmes droits, le délinquant comme l'homme vertueux. Enfin, troisième caractéristique de Luther, disons, pas de vraie société religieuse, la caractéristique du protestantisme. Chez Calvin, ça y est une nuance, mais chez Luther, ça existe, chez les deux, ça existe de la même manière. Il n'y a pas de société autonome, de société visible, autonome, religieuse. La religion est un département de l'État. Luther confie au prince la réglementation de la religion, parce que la religion, pour Luther, c'est une relation individuelle au Christ. On croit en Christ et on est sauvé. Mais comme les hommes s'agglutinent ensemble pour se faire de la religion, c'est l'État qui va réglementer les associations religieuses. Mais vous voyez, elles ne sont pas essentielles parce que le salut est individuel chez Luther et les associations religieuses tombent sous le coup de la législation de l'État comme les associations de pêche à la ligne. Évidemment, au départ, ce n'est pas net, mais Luther est quand même bien explicite là-dessus. Il donne le pouvoir religieux au prince. Conséquence à long terme du protestantisme, la laïcité tout simplement. La laïcité, je vous l'ai déjà dit, mais je vous répète un résumé simple de ce qu'est la laïcité. La laïcité, ça veut dire celui qui a le pouvoir sur la police prend le pouvoir sur les consciences. C'est ça que veut dire la laïcité. Celui qui fait la loi, il l'invente comme il veut et ça oblige les gens. Et les gens n'ont pas le droit de faire appel de leur conscience contre la loi. Voilà ce qu'est la laïcité, il n'y a pas de loi de Dieu au-dessus de la loi humaine. Et évidemment, en conséquence, plus d'église visible. Voilà, résumé de la conférence précédente. Notez que je vois le protestantisme sous l'angle social. et avec ses conséquences qui ne correspondent pas du tout nécessairement aux intentions des protestants. Je vais vous être obligé, pour vous parler de l'évolution future, de parler des conséquences immédiates du protestantisme. Sur 100 ou 200 ans, les pays où s'implante le protestantisme connaissent une véritable fièvre, une fièvre sociale, qui est un véritable cauchemar. On ne connaît pas la vérité de l'histoire, je vais vous en parler un peu pour l'Angleterre. Ceux qui étaient à ma troisième conférence sur Galilée ont entendu le résumé de ce qu'était au XVIe, XVIIe siècle l'Europe ravagée. Ravagée par quoi ? Mais par le protestantisme. Alors pas exactement par le protestantisme. Les idées protestantes déclenchent dans les cervelles humaines quelque chose qui momentanément produit une véritable fièvre. Et il y a du sang qui coule partout. Ça ne veut pas dire que les protestants sont des mauvais gens. Quand on étudie, par exemple, individuellement, quand on étudie, par exemple, la persécution religieuse en URSS, on est frappé de voir la ferveur des baptistes. Vraiment, les gens les plus fervents en URSS, ça devait être les baptistes, je crois. Ceux qui ne connaissent pas bien en détail cet épisode de la persécution, vous avez sans doute au moins lu Une journée d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn. La description d'Alyoshka le Baptiste est une très bonne description de ce qu'étaient les baptistes en URSS. On est étonné de voir ces gens qui viennent du fondateur j'oubliais le nom du fondateur des baptistes, un bonhomme polygame qui coupait les têtes aux femmes qui ne voulaient pas coucher avec lui, qui vivait dans la débauche et le luxe en se prétendant le nouveau Christ, tandis qu'il obligeait les gens à manger de l'herbe dans la ville où il dominait. Et c'est pas une plaisanterie, c'est vrai. Il avait commandé de manger de l'herbe, tandis que lui... C'est inimaginable. Et pourtant, ces gens-là... Et puis, avec un véritable cauchemar, des massacres, surveillance policière de tout le monde... Ça, c'est des conséquences sociales, si vous voulez. Et on voit malgré tout que quand cette espèce de fièvre sociale s'est apaisée, il reste quand même l'Évangile. Et ce qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ a un tel effet bienfaisant que malgré tout, au point de vue religieux, il faut bien faire la distinction entre l'effet social du protestantisme dont nous allons parler et l'effet religieux. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'évolution des mentalités qui vont découler dans les pays protestants et d'où va naître le libéralisme. J'ai titré le tract « Le robot libre ». C'est un paradoxe. Parce que le paradoxe du libéralisme, c'est qu'il est entièrement construit de contradictions. Vous allez voir que pour les théoriciens du libéralisme, l'être humain n'est pas libre. C'est un robot entièrement déterminé. La doctrine de la liberté ne croit pas à la liberté humaine. Et conséquence, quand je vous aurai bien décrit ce qu'est le système libéral, le libéralisme détruit la liberté concrète. Et nous allons voir pourquoi. Quelqu'un m'a posé la question, comment expliquer cela ? On verra pourquoi, comment s'explique ce phénomène. Eh bien, le libéralisme est une curiosité parce qu'il ne naît pas de... il ne naît pas des spéculations métaphysiques d'un grand philosophe. En fait, c'est une superstructure. Vous connaissez peut-être la théorie de Karl Marx, suivant laquelle les idées intellectuelles, religieuses, morales, culturelles, artistiques sont la superstructure des relations, des moyens de production. Les hommes sont en relation les uns avec les autres et par les moyens de production, et tout le reste n'est qu'une superstructure imaginaire. Mais ce qui existe réellement, c'est les relations produites par les moyens de production. Eh bien, vous verrez, curieusement, le libéralisme entre très bien dans cette catégorie. Le libéralisme est une superstructure, c'est-à-dire une conceptualisation de la manière dont les gens vivaient comme conséquence du protestantisme dans les pays protestants. C'est pourquoi une théorie aussi absurde était apprivoisée dans leur tête et elle paraissait tout à fait vraisemblable. C'est pourquoi aussi on a affaire à quelque chose de très curieux dans les milieux que j'ai titrés aussi « Le complot sans complot ». Pourquoi ? Parce que très souvent, dans les milieux contre-révolutionnaires, il y a cette idée qu'il n'est pas possible qu'il y ait une pareille convergence d'action entre des gens qui, en apparence, ne se connaissent pas, sans qu'il n'y ait pas une intelligence diabolique derrière qui dirige par un complot mondial. Eh bien, j'espère, dans la présente conférence, vous montrer qu'il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot. Simplement... La cohérence apparente, la continuité de pensée dans l'action, vient que le mal est une négation partielle du bien, et que la cohérence vient de ce qu'ils veulent détruire, qui subsiste encore. Et la cohérence vient du fait que la société est une création de Dieu et que l'être humain est préprogrammé pour fonctionner d'une certaine manière. Et quand des êtres humains veulent fonctionner autrement, ils vont rencontrer toujours les mêmes obstacles. Et il y a une cohérence qui ne vient pas d'un complot ou d'une direction qui sera en arrière, mais tout simplement de la cohésion, de la volonté du Créateur. L'être humain fonctionne idéalement en société, il est préprogrammé pour ça. Si je peux me permettre une comparaison, comparaison mécanique, quelqu'un ne soigne pas sa voiture, a les bougies encrassées. Alors un cylindre sur trois fonctionne, le moteur surchauffe. D'abord les bougies marchent mal, ensuite le moteur surchauffe. Ensuite quand le moteur surchauffe, il finit par claquer le joint de culasse. Et quand il a claqué le joint de culasse, il y a de l'eau dans l'huile et puis plein de fumée blanche derrière. Et il serait porté à dire, il y a un complot. Vous voyez, ça n'a rien à voir, mon moteur, il y a un complot pour démolir mon moteur pièce après pièce, car il n'y a rien à voir entre les bougies et l'eau dans l'huile. Mais simplement parce qu'il y a un ingénieur qui a conçu le moteur, et du fait que la cohésion de la mécanique, une panne d'un côté, va déclencher en cascade une série de désordres qui s'enclenchent logiquement sans qu'il y ait besoin, qu'il y ait un complot pour casser son moteur. Alors j'espère vous montrer sur le cas concret du libéralisme comment on a une convergence de gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les pères fondateurs du libéralisme qui sont Grotius, le Hollandais Grotius, Hobbes, John Locke, et puis peut-être en dernier Adam Smith, n'avaient rien à voir les uns avec les autres. C'est des gens profondément différents, qui ne se connaissaient pas. Grotius, à la fin de sa vie, est devenu quasiment catholique. Hobbes était un athée, et puis une brute. C'était vrai, un athée brutal qui rêvait d'un pouvoir totalitaire. Hobbes, c'est exactement le contraire, c'est le bourgeois distingué. Et c'est un déiste. On voit que ces gens-là n'ont rien dans leur conviction, le milieu social d'où ils sont sortis, ils n'ont rien de commun. Et pourtant, vous allez voir que leurs pensées convergent. Alors nous allons voir pourquoi elles convergent. Essayez de voir l'origine du libéralisme. Vous verrez que c'est un cas très intéressant où un système intellectuel est vraiment la structure, une superstructure des relations sociales. C'est un de ces rares cas où la théorie marxiste, en quelque sorte, s'applique. Et en conclusion, j'aborderai le paradoxe, comment se fait-il que le libéralisme, qui est une des doctrines de la liberté, commence par nier la liberté et finit en pratique dans les sociétés où il s'applique par la détruire. Deuxième paradoxe du libéralisme, que j'aborderai à la fin, si le libéralisme pouvait évoluer sans crise brutale que sont les révolutions, il aboutirait à la ruine économique, alors que le but du libéralisme est normalement justement la prospérité économique. Et bien nous verrons pourquoi les effets pervers, le libéralisme est toujours accompagné d'effets pervers. Alors première étape, père fondateur du libéralisme, Grotius, 1583-1645. Vous allez voir qu'il se succède à deux générations de distance, environ une soixantaine d'années entre chacun de ses pères fondateurs. Première étape, Grotius. Le premier pays à sortir de l'anarchie, disons de la guerre civile produite par le protestantisme, c'est la Hollande. La Hollande est le premier pays à réussir à émerger, à se stabiliser politiquement après la période d'anarchie. Et donc Grotius est un illustre jurisconsulte, il est considéré aujourd'hui, son nom est Hugo de Groot, son nom de Hollandais, il a latinisé en Grotius, c'est un illustre jurisconsulte qui est considéré aujourd'hui comme le père fondateur du droit international. Et Grotius vit dans la Hollande du 15e, du 16e, 17e siècle, et il est préoccupé pas du tout par une théorie libérale, par un problème pratique qui est l'objet des conversations chez les armateurs d'Anvers, le problème de l'insécurité des mers. Avant le protestantisme, il y avait l'autorité pontificale qui était reconnue par tous les pays chrétiens, et bon an, mal an, le pape, quand il y avait des conflits commerciaux, quand les pays qui avaient des comptoirs commerciaux dans le monde entier, se trouvaient en conflit, on recourait au pape et on tâchait d'obtenir un accord. L'autorité du pape, il se dit que lui ne faisait pas de commerce, il n'était pas considéré comme être soupçonné d'être jugé parti. On arrivait à un accord en sorte que les zones de prépondérance commerciale étaient réparties. En gros, c'est le GATT, si vous voulez, avant la lettre, et ça fonctionnait pas trop mal. Les républiques italiennes avaient quasiment le monopole du commerce avec le Levant, l'Espagne avait le monopole du commerce avec l'Amérique, le Portugal avait le monopole du commerce avec les Indes, la Hollande avait le monopole du commerce avec une partie de l'Afrique, l'Angleterre avait le monopole, et puis avec, je crois, le Japon, l'Angleterre, bon, bref, il y avait des zones de monopole, pas strictes, mais de quasi-monopole, qui, bon an, mal an, ça parvenait à fonctionner à peu près correctement. Or, depuis le protestantisme, ces zones, ces chasses gardées des pays commerciaux ne sont plus respectées, et les Hollandais en particulier ne se privent pas de faire du commerce dans la zone qui était autrefois réservée aux Portugais et même de pratiquer la piraterie. Évidemment, il y a des retours de manivelle, les Portugais pratiquent aussi la piraterie contre eux et ça finit par préoccuper les marchands d'Anvers, cette histoire-là. Même si le marché est plus large, en gros, en perdant un seul navire par la piraterie, on perd 10 ans de bénéfices du commerce. Donc finalement, c'est une situation qui ne peut plus durer parce que le commerce marche mal à cause de l'insécurité des mers. Or, un accord tel qu'on le concevait précédemment ne peut plus être obtenu parce que l'autorité du pape n'est plus reconnue par tous les pays d'Europe et même les commandements de Dieu ne sont plus reconnus comme la norme de la loi pour tous les pays d'Europe, ce qui fait qu'il n'y a plus moyen d'avoir un accord, un droit, des règles de bonne conduite communes communes aux divers pays commerciaux. Et c'est ça ce problème-là que se propose Grotius dans son traité appelé Mare Liberum. Et il a une idée. Je vous donne la solution que propose Grotius, un traité qui n'aura pas d'effet immédiat, mais à long terme, qui sera la base de toute la réflexion du droit dans les pays protestants. Grotius dit, bon, c'est entendu, il n'y a plus d'accord sur les commandements de Dieu. Il n'y a plus d'accord sur le bien et le mal, et il n'y a plus d'autorité terrestre que nous puissions accepter les uns et les autres pour trancher nos différends. Mais il y a quand même un point d'accord, une plateforme de départ commerçant, catholique ou protestant, nous sommes d'accord ensemble pour faire du commerce. Et donc, nous pouvons peut-être concevoir un code de bonne conduite, des conventions entre égaux mutuellement profitables. La base du droit que propose Grotius, c'est arriver à concevoir un droit que tout le monde acceptera de suivre parce qu'il est mutuellement profitable. Convention entre égaux. On ne tient pas compte du bien et du mal, de la morale, de la religion. On fait une convention mutuellement profitable entre égaux. Contrat provisoire fondé sur le profit. Les uns et les autres l'accepteront. Voyez, le petit requin va accepter parce qu'il vaut mieux avoir une petite tarte de gâteau dans le partage plutôt que se faire bouffer par le gros requin. Et le gros requin accepte quand même parce que malgré tout, même s'il pourrait, avec le forcing, obtenir la plus grosse part de gâteau, à long terme, malgré tout, il est plus intéressant d'obtenir la sécurité et pas tout à fait la totalité du gâteau que tout le gâteau et le risque de perdre un bateau. Alors la base du droit, c'est donc contrat, convention entre égaux, mutuellement profitable, et c'est un équilibre toujours susceptible d'être remis en question par le rapport de force, si le rapport de force et si les profits viennent à changer. Alors, jugez de la rupture de cette notion de droit. C'est pour ça que vous êtes familière, ça aura familier. Chez les anglo-saxons, c'est le critère de moralité. Si vous avez lu des romans américains, c'est très intéressant, en gros. Alors nous, ça nous paraît un peu cynique, mais ce n'est pas cynique du tout, d'un point de vue américain. Ils vous proposent une affaire, un contrat mutuellement profitable. Nous, on a tendance à penser que c'est un peu cynique, mais ce n'est pas ça du tout. Pour un Américain, c'est la norme de moralité. C'est un contrat moral car mutuellement profitable. Dans les techniques de relations humaines appliquées dans les entreprises qui viennent d'outre-Atlantique, il y a la grande règle, la règle d'or, c'est le win-win, gagnant-gagnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans toute relation, il faut que les deux gagnent quelque chose. C'est-à-dire que ça doit être toujours une situation win-win. Même si vous êtes le plus fort, il faut que celui qui est en face de vous gagne quand même une petite noisette. Parce que c'est toujours profitable à long terme, plutôt que le rapport de force. Et cette mentalité, vous voyez, elle nous est familière, mais notez, vous jugez de la rupture. Depuis le droit grec et romain et le droit d'Europe chrétienne, la loi est fondée sur le Créateur. Le prince reçoit son peuple à gouverner, mais il ne l'a pas créé. Il ne peut porter habituellement, arbitrairement, des lois selon son caprice, mais il est lié moralement dans son pouvoir, parce qu'il cède de la volonté du Créateur sur les hommes. Pour les Grecs, c'était les lois non écrites. Pour le prince chrétien, c'est l'enseignement de l'Église, les 10 commandements de Dieu, disons en gros. Et la loi a pour fondement l'autorité de Dieu, et pour finalité, la perfection morale des citoyens. La perfection des citoyens inclut la suffisance des biens matériels. Une certaine prospérité économique n'est pas en dehors des buts légitimes du prince, mais ce n'est pas l'essentiel de son but. Le but, c'est vraiment l'achèvement de la personnalité humaine. Aristote disait, l'être humain est éduqué par la loi et il trouve son achèvement dans la société. Vous voyez que le nouveau droit a des conséquences métaphysiques très... Alors le droit qui est un contrat, du moins une loi qui est un contrat mutuellement profitable, c'est quelque chose qui a toujours existé aussi. Mais ce qui est nouveau, c'est d'en faire le fondement de tout droit humain. Vous voyez, il n'y a plus de Dieu. Qui a un Dieu, qui n'en est pas, ça n'a plus aucune importance. On est d'accord ensemble pour s'enrichir et sur cette base, nous acceptons une convention parce qu'elle nous est profitable. Voilà. Alors, conséquences métaphysiques, elles seront perçues beaucoup plus tard, mais s'il en est ainsi, ce sont les hommes qui créent les règles de leur vie commune. Nous n'avons pas à chercher comment l'homme s'optimise selon la volonté du Créateur, les hommes inventent librement le contrat selon lequel ils décident de vivre ensemble. Deuxième conséquence de cette loi, de cette conception de la loi, la religion. Au lieu d'être le fondement du droit, le fondement de la légitimité du droit, devient une des activités humaines régies par le droit, dans un système comme ça. C'est très important, la religion devient une des activités humaines régies par le droit. Autrement dit, on est en train de s'insinuer dans la jurisprudence, sinon dans la jurisprudence, du moins dans la conception, dans le corpus des lois, ce qui se trouvait déjà dans Luther, l'État contrôle la religion. C'est extrêmement séduisant. L'idée fondatrice des États-Unis au XVIIIe siècle avait une pareille séduction sur les philosophes des Lumières. C'est que il y a une expérience fantastique aux États-Unis, aux Amériques. Ils ont inventé de toutes pièces une nouvelle règle de vie en société et ça a l'air de marcher. Vous voyez, l'idée que expérimentalement, c'est en train de marcher. Ils ont inventé une nouvelle manière et c'est un contrat. Voilà. Alors la convention contractuelle entre égaux obligeant mutuellement a toujours existé, mais ce qui constitue la nouveauté, c'est la réduction de toute autorité législative à ce type de convention. Notez que Grotius n'avait pas l'intention, lui, de réduire toute activité législative. Mais vous allez voir que cette idée initiale va porter des fruits, en particulier chez John Locke. John Locke va étendre cette intuition initiale à la totalité des règles de vie commune. La loi sera exclusivement une convention entre égaux mutuellement profitable. Donc voilà pour Grotius. Grotius qui est un homme très fin et qui a fini quasiment catholique. C'est un homme qui petit à petit était de plus en plus déçu par le protestantisme. Il est mort pratiquement, on ne sait pas s'il est sur le point de se convertir, mais très très proche du catholicisme. Deuxième théoricien du libéralisme, environ une cinquantaine d'années plus... Oh non, pratiquement contemporain, Hobbes, 20 ans plus tard, 1588-1679. Hobbes, c'est tout l'opposé de Grotius. C'est un athée d'abord. Et en même temps, c'est une brute. Enfin, c'est une brute intellectuellement au moins. Alors pour comprendre Hobbes, vous voyez, vous venez de comprendre, les idées de Grotius sont pratiquement le produit de ce milieu commerçant hollandais, disons, les préoccupations des armateurs d'Anvers. Eh bien, les idées de Hobbes, elles vont correspondre aux préoccupations d'un apparatchik qui se heurte à la prise de pouvoir par Boris Eltsine. Car, vous savez, la monarchie anglaise, la monarchie absolue anglaise au moment de Cromwell, eh bien, c'est terriblement totalitaire. Alors d'abord, il faut vous rendre compte, pour comprendre la manière de raisonner de Hobbes et de Locke, il faut connaître le milieu historique. À partir d'Henri VIII, l'Angleterre connaît une période de stabilité politique suite à la guerre des Deux Roses, mais c'est un despotisme impitoyable, en particulier sous Élisabeth. Pour vous donner une idée de ce despotisme, c'est des choses que j'ai déjà citées dans ma conférence sur Galilée, il y a 2 millions, une misère terrifiante, 2 millions de gens qui n'ont pas de quoi vivre, des gens à la limite de la survie, sur une population de 6-7 millions d'habitants. Une misère extrême, depuis la destruction des milliers de monastères qu'avait détruit Henri VIII, toutes les écoles populaires ont disparu, et tous les gens qui vivaient sur les terres ou qui vivaient des aumônes des monastères se trouvent jetés sur les routes. L'éducation des gratuits des enfants pauvres a disparu, et Henri VIII règle le problème de la misère comme il a réglé les problèmes religieux. La loi condamne les mendiants invalides à être mis au fer et fouettés, les valides à être attachés au brancard d'une charrette et fouettés jusqu'au sang. En 1535, on renchérit sur ces peines. À la première récidive, les mendiants avaient l'oreille droite coupée. Ils étaient condamnés à mort pour la seconde récidive, s'ils avaient mendié. Sous Édouard VI, le Parlement arrêta que tout pauvre qui resterait oisif pendant 3 jours serait marqué au fer rouge et resterait 2 ans esclave de celui qui l'avait dénoncé. En 1572, des lois plus dures encore furent promulguées. Et en même temps, l'esclavage se développe, mais pas seulement en Angleterre, en Allemagne, dans l'Allemagne protestante aussi. L'esclavage se développe, pour vous en donner une idée, lorsque Cromwell rentra victorieux de ses victoires contre les Irlandais, il ramena dans ses fourgons 8000 esclaves et il offrit à chacun des membres du Parlement, comme cadeau de victoire, 2 esclaves et 1 cheval. Et il y avait dans toute l'Angleterre des marchés d'esclaves dans toutes les villes. Et cette atmosphère, il y a cet aspect-là, si vous voulez, la misère, en même temps un despotisme religieux terrible. Les catholiques en sont les premières victimes, bien entendu, mais pas seulement les catholiques, tous les protestants qui sont considérés comme déviants. Entre Henri VIII et Élisabeth Ière, les calvinistes, en particulier les puritains, sont pourchassés, tantôt férocement, tantôt pas férocement, où ils sont brûlés vifs, ou bien ils sont noyés au large. Vous connaissez tous, je suppose, l'épopée du Mayflower. Il me semble que c'est sous Élisabeth Ière, des calvinistes qui demandaient à émigrer en Amérique, et les capitaines avaient l'ordre de les emmener sur des vieux bateaux et de les couler. De couler tout le monde, les familles, les femmes, ils partaient, ils chargeaient le bateau, et puis on coulait le bateau, et le capitaine rentrait avec un canot. Et puis le capitaine du Mayflower a eu pitié de ses passagers, et il les a débarqués à Boston. C'est l'origine des puritains de Boston. Mais ça vous donne une idée de cette atmosphère. En même temps, une autre caractéristique, sous Cromwell, l'insécurité, la peur, la délinquance partout. Sous Cromwell, il y a un soulèvement général contre le despotisme royal, je vais vous parler du despotisme royal, mais en conséquence, une multitude de fondateurs de sectes qui veulent faire le paradis communiste sur la terre tout de suite. C'est très curieux de voir à l'époque de Cromwell, fédère des dirigeants de sectes, des illuminés, mais qui ne veulent pas la transformation religieuse, mais la transformation sociale. Ils veulent fabriquer une société idéale où tout est à tous et où tous les biens sont communs, très souvent avec la communauté des femmes. La conséquence, c'est qu'il y a du sang partout, la sécurité partout. Et les gens, à l'époque de Hobbes, ils diront, la religion, c'est très bien, mais écoutez, hein, simplement, pouvoir sortir de chez soi sans se faire égorger, déjà, ce serait pas mal. Parce qu'ils sortent d'une espèce de cauchemar, une insécurité telle que on est prêt à tout accepter pour avoir la paix. Et quand Hobbes va proposer, John Locke va proposer, dire pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de sang, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le pouvoir voulait transformer moralement les hommes et les écrasait d'un tas de lois qui n'ont aucun intérêt. Il faut que l'État s'occupe juste du progrès économique et juste de la sécurité. Vivre en sécurité, pouvoir s'enrichir. Mais ces idées-là, pour que ces idées-là aient un tel impact, ça ne s'explique bien qu'à cause de l'atmosphère. Il faut bien connaître l'histoire de l'Angleterre à cette époque-là. Ça ne s'explique bien parce que les gens sortent d'un cauchemar. Et ils sont tout prêts à croire ça. D'autant plus que le protestantisme y porte. Quand on est protestant, en fait, si on croit en Christ, on est sauvé, la foi sans les œuvres, et finalement, tant qu'à faire, ce qui autant tâcher de s'enrichir. Maintenant, pour les idées de Hobbes, il faut savoir ce qu'était le despotisme de la monarchie absolue anglaise, en particulier sous Élisabeth Ière. Élisabeth Ière n'avait aucune confiance en sa légitimité. Nous ne comprenons plus très bien qu'actuellement, un pouvoir qui n'a plus cette légitimité religieuse est un pouvoir qui, à l'époque, il n'avait pas confiance en soi. Élisabeth, en apostasiant publiquement malgré la promesse du sacre, ça entraînait, le pape Saint-Pie V avait déclaré que c'était plus qu'un pouvoir de fait, c'était plus un pouvoir de droit, qui n'était pas sacré. On lui obéissait si c'était le moindre mal, mais c'est pas parce qu'il y avait un droit. Et s'il y avait moyen de le renverser pour installer un pouvoir catholique qui ait des chances de vivre et puis d'assurer la paix sociale, il fallait pas hésiter, parce que le pouvoir n'était plus sacré. Élisabeth Ière, consciente de son illégitimité, elle a fait ça parce que déjà au fond d'elle-même, elle craignait d'être une... Je ne sais pas si vous connaissez un peu son histoire. Elle craignait d'une fille illégitime d'Henri VIII. Elle avait des doutes très forts sur la légitimité de sa filiation. Et elle a voulu contrôler la religion pour se consolider. Avec effet boomerang, elle s'est sentie encore plus en insécurité à partir du moment où le pape l'a déclaré comme un pouvoir de fait, mais plus un pouvoir légitime. Et sous Élisabeth se développe un pouvoir atypique que nous connaissons bien, mais qui est quelque chose de radicalement nouveau. C'est le contrôle administratif des sujets. Un pouvoir qui n'a pas confiance en lui, qui ne croit pas à l'amour de ses sujets et qui tâche de les compromettre. William Cecil, Lord Burghley, le ministre de, c'est pas de l'économie, ni des finances, je ne me souviens plus comment, du trésor d'Élisabeth Ière, est l'organisateur de ce contrôle, de ce quadrillage de la population anglaise. C'est lui qui a fait faire la cartographie de toute l'Angleterre, mais pour quadriller toutes les villes sûres, les villes avec des protestants, les villes avec des catholiques, et puis ficher tous les citoyens. C'est le début d'une conception du pouvoir administratif en arrière-plan qui ne cherche pas à commander, parce qu'on a le droit de commander, mais qui cherche à contrôler les citoyens, à quadriller les citoyens. On arrive donc à un pouvoir qui contrôle les citoyens et qui a une classe d'apparatchik, de gens qui ont pratiquement tout l'argent à leur disposition, et dont le pouvoir ne repose que sur le contrôle, le verrouillage de toutes les initiatives. Et Hobbes est un de ces apparatchiks. Il reste une horreur de ce contrôle, de cette espèce de contrôle administratif, même encore aujourd'hui en Angleterre. Vous savez qu'en Angleterre, il n'y a pas de carte d'identité, parce que les gens ne veulent pas de ce contrôle par l'État. Et cette répulsion, elle s'explique très bien. La révolution de Cromwell correspond réellement à quelque chose. Ce pouvoir, c'était plus un despotisme moderne. Ça ressemblait à Staline, mutatis mutandis, mais c'était quand même, faut quand même pas y rêver. C'était vraiment un pouvoir féroce, féroce. Eh bien, Hobbes, 1598-1679, il est un de ses apparatchiks, il est, au moment de la révolte de Cromwell, il fait partie des cavaliers, c'est le parti loyaliste, le parti du roi, et face aux idées, disons, républicaines de Cromwell, il écrit pour défendre sa conception du gouvernement. Alors, quelle est la conception du gouvernement de Hobbes ? Eh bien, premièrement, c'est lui qui invente la doctrine du bon sauvage. Premièrement, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Deuxièmement, l'homme est une bête féroce. L'homme est une bête féroce qui tue, mue, une bête féroce mue uniquement par deux pulsions fondamentales, la convoitise et l'agressivité. Et alors, c'est une bête féroce qui verse le sang. Il a sous les yeux Cromwell, mais surtout, il y a aussi cette mentalité, depuis Henri VIII, Élisabeth Ière, on doit tenir ces gens-là, et on ne peut pas compter ni sur leur parole, ni sur la loyauté. Il faut se rendre compte que ce pouvoir n'a aucune confiance dans les hommes. Élisabeth Ière réclame des serments de fidélité, alors qu'elle sait très bien que c'est les hypocrites qui lui prêtent le serment. Elle réclame des serments de fidélité en violant les consciences des gens. Elle sait très bien qu'ils ont prêté un serment contraire, et elle lui demande le serment contraire. Elle sait qu'il y a Clémenteur qui prête le serment. Et finalement, c'est un pouvoir qui repose sur la peur mutuelle. Élisabeth dit, si j'arrive à leur faire souiller ce qu'ils ont de plus sacré, ça me prouve qu'ils ont plus peur de moi que moi j'ai peur d'eux. Quand elle demande, elle aurait très bien pu demander aux catholiques un serment conforme à leur conscience. Pourquoi demande-t-elle un serment de fidélité politique qui viole les consciences des catholiques? Parce que, sans se l'avouer elle-même, mais la réaction inavouée, profonde, la motivation inavouée profonde, c'est que si je leur fais salir ce qui est le plus précieux à leurs yeux, c'est qu'ils ont tellement peur de moi qu'ils vont m'obéir. Quand elle demande des serments, elle ne croit pas qu'on l'aime. Je ne sais pas si vous savez comment Élisabeth Ière est morte. Elle est morte véritablement en damnée, n'arrivant plus à dormir, voyant le démon tout le temps, elle n'arrivant plus à manger. Et quand l'archevêque de Canterbury est venu pour lui apporter consolation de la religion, elle a été prise d'une véritable hystérie et elle lui a dit « Dehors comédien, dehors espèce de clown, je sais ce que ça vaut vos serments !» Parce que c'était le fond de son cœur. C'est un pouvoir, vous voyez, où l'homme, alors Hobbes, les idées de Hobbes. Mais vous voyez, ils sont pris dans l'engrenage. Arriver à faire plus peur au peuple que nous n'avons peur de lui. Et Hobbes est un des apparatchiks de ce système. Et les idées de Hobbes sont simplement le produit de la manière dont on vivait dans les milieux dirigeants. On vivait comme ça. Et donc Hobbes formule, ayant sous les yeux d'ailleurs la révolution de Cromwell, Hobbes formule cette idée, l'homme est foncièrement mauvais. Pour le faire, mais quand on le laisse ensemble, sans pouvoir, ils se tuent, ils se battent, et c'est l'anarchie, c'est la peur. L'anarchie étant le pire de tous les régimes, pour que les hommes vivent en paix, il faut un pouvoir impitoyable qui n'a rien au-dessus de lui et qui commande à tout ce petit monde-là. Alors c'est Hobbes qui est l'inventeur. Dans les idées de Hobbes, qu'est-ce qui préfigure le libéralisme? Vous direz quel rapport avec le libéralisme? C'est lui l'inventeur du bon sauvage. Ou du mauvais sauvage, c'est pareil. L'homme, fondamentalement, est un robot mu par ses deux pulsions fondamentales, la convoitise et l'agressivité. En les forçant à vivre en paix sous le despotisme, à ce moment-là, ils vivent en paix parce qu'ils font du commerce et ils prospèrent. Et ils vivent en paix parce qu'ils sont rassasiés. Donc il faut défendre les deux idées maîtresses de Hobbes, c'est défendre la propriété contre les idées communistes des extrémistes religieux de l'époque et défendre le despotisme. Alors d'autres y affineront ces idées, mais l'idée de base, il n'y a pas de Dieu, le pouvoir est juste là pour forcer les hommes à vivre en paix, et les hommes... Ce qui compte uniquement dans la vie des hommes, c'est l'enrichissement. Voilà. Alors les idées de Hobbes sont un peu simplistes, mais vous verrez que... l'idée de l'état idéal pour Hobbes, quand même, c'est l'idée de ce gouvernement administratif contrôlant de façon anonyme toute la population. Ce pouvoir, il l'appelle le Léviathan. Et il le décrit de la façon suivante, je vous lis le passage en citant les paroles de la Bible. Un état administratif anonyme et impitoyable qui règne sur des individus déracinés et sans défense. Il l'appelle l'homme artificiel, le dieu mortel. Il lui applique les paroles bibliques, c'est les paroles qui sont dans le livre de Job. Il n'a pas son pareil sur la terre, il a été créé sans peur, il porte son regard intrépide sur tout ce qui est élevé, il est le souverain de tous les fils de l'orgueil. Et parmi les dangers graves qui menacent son état léviathan, Hobbes compte le fait de croire que la conscience l'emporte sur la loi. Il dit, c'est ça qu'il faut réprimer, C'est ça qui met en danger l'État administratif anonyme. Voilà, alors Hobbes, c'est en germe deux idées importantes, l'idée de contrôle administratif de la population et l'idée de bon sauvage. Maintenant, John Locke, 1632-1704, John Locke arrive une génération plus tard et c'est vraiment le fondateur du libéralisme. Ses idées sont développées dans deux livres, la lettre sur la tolérance, qui est rééditée régulièrement, je crois qu'on peut les trouver actuellement assez facilement, et puis le traité du gouvernement civil, qui est un énorme pavé, et qui étend toutes ces idées générales sur le gouvernement civil. Quelles sont les idées maîtresses de Locke? Disons, allons directement au traité du gouvernement civil. On sort du régime de Cromwell, mais l'Angleterre n'arrive pas à trouver son assiette parce qu'on a rappelé des rois. Les gens veulent simplement vivre en paix. Seulement, ils n'arrivent pas à accepter, puis ces rois tendent vers le catholicisme, et en même temps, il y a cette tradition de despotisme qui fait que le pouvoir est instable. Et alors Locke va donner sa théorie. Si nous voulons vivre en paix, c'est le principal. Comprenez la religion, c'est très bien, mais déjà, il faudrait simplement arriver à vivre. Nous devons vivre en paix. Il faut arriver à comprendre une bonne fois pour toutes quelles sont les bases de la société. Alors il remet en cause les idées d'Aristote. On a raconté que l'homme est en société pour devenir meilleur, pour devenir plus vertueux, pour affiner son intelligence, son sens artistique, et puis pour se préparer à la vie éternelle. Et tout ça, c'est des histoires qu'à 1700 ans après Jésus-Christ, nous voyons que l'homme est aussi féroce que ce qu'on voyait dans l'Antiquité. Il avait eu sous les yeux la période de Cromwell, il disait « l'homme est aussi féroce, il n'est pas devenu meilleur, c'est des illusions tout ça ». Alors laissons tomber les illusions. Pourquoi est-ce qu'il y a tout le temps des révolutions? C'est parce que l'État s'invente des obligations, c'est des superstructures écrasantes, il s'invente des obligations en matière de morale, en matière de religion, en matière de perfectionnement humain. Et alors, ça écrase sous des lois inutiles les citoyens, et la cocotte minute, la pression monte dans la cocotte minute, et la cocotte minute finit par exploser. Alors, une bonne fois pour toutes, soyons réalistes, le but de l'État est uniquement d'assurer la paix sociale, et les gens ne vivent en société que pour s'enrichir. Alors, je vais vous décrire la théorie de John Locke au point de départ. D'abord, l'homme ne peut pas être rendu meilleur par la vie sociale. Vous retrouvez l'idée, une des conséquences de la doctrine luthérienne, il n'y a pas d'homme meilleur que les autres. L'homme n'est pas rendu meilleur que par la vie sociale. Dans la société, on ne doit pas faire de différence de morale entre les hommes, du moment que la paix sociale est assurée. Et l'homme ne vit en société que pour le profit. Alors, John Locke fait un peu de métaphysique. Je vais vous raconter ça, c'est un peu cocasse, puis ça vous distraira. Donc, comment est-ce que ça commence? Il dit, au commencement était le bon sauvage. L'homme dans l'état de bon sauvage, c'est un homme qui ne vit pas en société. Il est bon parce qu'il est entièrement libre. La valeur principale, c'est la liberté, c'est-à-dire l'absence de toute contrainte. Il fait tout ce qu'il veut. Mais le bon sauvage est pauvre. Alors, le bon sauvage est mu par, comme Hobbes, il reprend l'idée de Hobbes, les deux pulsions fondamentales, l'agressivité et la convoitise. Alors comment ça se passe? C'est un état où tout le monde est en guerre contre tout le monde. Le bon sauvage est un robot qui a un petit radar au-dessus de la tête, le radar fait ouh, et puis d'un coup le bon sauvage aperçoit une part de tarte. Il convoite la part de tarte, il va vers la part de tarte. Mais un autre bon sauvage qui passait à côté avec son petit radar, a lui aussi vu la part de tarte, il se dirige vers la part de tarte. Conflit, comme ils sont très agressifs et qu'ils se détestent, déjà, ils sont portés à se taper dessus, et en plus, il y a la part de tarte entre les deux. Il se casse la figure, et le plus fort part avec la part de tarte, et l'autre reste avec les deux yeux pochés. Le bon sauvage voit une deuxième part de tarte, il casse sa figure à l'autre, il revient, et petit à petit, il se promène avec une remorque remplie de son butin, toutes les parts de tarte qu'il a prises. Mais voilà que les autres bons sauvages qui ont les yeux pochés se sont unis ensemble, lui tombent dessus, lui cassent sa figure, lui prennent tout, et il se retrouve tout nu. Alors, il réfléchit. Il dit, finalement, c'est pas une solution parce que je suis tout le temps en train de me bagarrer et je suis jamais sûr de conserver mon butin. On ferait mieux de s'entendre et de faire un contrat pour faire du commerce. Moi, en échange, j'en prendrai un peu moins, mais je suis assuré qu'on respectera ma propriété. Donc le bon sauvage, Nao, n'aime pas le prochain, n'est pas mu du tout, il n'est pas fait du tout pour vivre en société, mais il veut s'enrichir. Il accepte donc de limiter sa liberté parce qu'il espère un enrichissement beaucoup plus grand. Donc vous avez un conflit, entre les deux convoitises très fortes, l'agressivité qui est l'esprit d'indépendance, l'impatience de toute contrainte des autres. Vous voyez, l'enfer c'est les autres, mais en même temps la convoitise. Alors finalement ils vont accepter le contrat. J'accepte de vivre en société du moment qu'on me promet que ce que j'ai pris ou ce que j'ai gagné, on ne me le prendra pas. Du moment qu'on me promet aussi qu'on ne me cassera plus la figure, que je peux sortir de moi, chez moi en étant en sécurité et qu'on me permettra de m'enrichir. Voilà. Donc le contrat social, contrat mutuellement profitable. Vous allez voir comment, dans cette conception-là, la notion de droit conçue par Grotius va devenir nécessaire. Alors Hobbes dit, bon, tout ça c'est bien gentil, seulement, comment vont-ils respecter les contrats ? Parce que vous comprenez, sur le marché, le bon sauvage vend son beurre. Vous noterez au passage la notion de bon sauvage quand même, j'attire votre attention. Le bon sauvage, ça ne peut pas exister. C'est ni homme ni femme, ça n'a ni père ni mère. Il ne sait pas s'il est né, il ne sait pas s'il mourra. Et il n'a pas de liberté, c'est juste un robot mu par la convoitise et l'agressivité. Notez quand même que ces idées-là, elles existent aujourd'hui. Hein. Un penseur moderne, à l'époque j'étais encore étudiant, Henri Laborit, qui avait du succès, il avait sa petite chronique dans Le Monde régulièrement, c'était sa conception. C'est sa conception. L'homme mu par l'agressivité est pris dans la société, il détourne son agressivité par divers moyens, mais on retrouve finalement les deux pulsions fondamentales, et l'homme n'est pas libre. C'est un robot mu par l'agressivité et la convoitise. Il ne peut pas l'accepter, il va produire sa révolte parce qu'il ne veut pas de limite, il ne veut pas de contraintes. Alors revenons à notre bon sauvage qui a accepté le contrat, avec d'autres bons sauvages qui ont accepté le contrat. Il vend son beurre sur le marché. L'autre bon sauvage arrive et je te donne de l'argent, tu me donnes le beurre. Elle dit, ben donne d'abord ton argent, puis ensuite il prend le beurre et l'argent du beurre. Alors respecte pas le contrat, c'est trop tentant. Puisqu'il n'aime pas l'autre, il n'a pas raison de tenir parole non plus. Alors il faut un policier, John Locke dit, il faut un policier avec une grosse matraque, très méchant, parce qu'ils sont tous très méchants, qui est là avec sa matraque et a dit, donne le beurre, respecte le contrat. Je suis un honnête homme, je respecte le contrat, je donne le beurre. Donc vous voyez, il faut un pouvoir. Et il arrive à la même conclusion que Hobbes, il faut un pouvoir et un pouvoir très fort, parce qu'ils sont méchants. Ben oui, mais l'ennui, c'est que le pouvoir, c'est aussi un bon sauvage qui est mu par l'agressivité et la convoitise, et si on lui donne la matraque, il va tout prendre. Alors John Locke a une idée. Pour arriver à ce qu'ils ne prennent pas tout, on va diviser le pouvoir en trois, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. On va mettre trois requins, en sorte que s'il y a un requin qui devient trop gras, les autres vont le mordre. Parce qu'ils sont méchants aussi. Et alors, il ne pourra pas devenir trop gras et ça va limiter. Vous voyez, dans la conception libérale, l'État, c'est l'ennemi. On n'imagine même pas que celui qui gouverne puisse aimer ses sujets, voir leur bien. Il est mauvais, il est méchant, on ne lui doit rien, il ne nous doit rien. Il est forcément pourri. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas étonnés du tout que dans démocratie, il y ait la corruption dans les hautes sphères. Parce que c'est normal. C'est le bon sauvage et une fois qu'il a le pouvoir, alors comment faire pour limiter les dégâts ? Eh bien, on ne lui donne pas le pouvoir longtemps, il y a des élections. Il a l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, et puis s'il est trop vorace, il va se faire blackbouler, et puis tous les autres clercs vont lui tomber dessus quand il n'aura plus le pouvoir, et il se fera étriper. Donc il y a la peur qui l'obligera à être à peu près honnête. Voilà, voilà le système de John Locke. La loi qui n'est acceptable que dans la mesure où elle assure l'enrichissement, elle ne restreint la liberté qu'à condition qu'il y ait un profit nettement plus grand. Il faut un pouvoir impitoyable qui contrôle tous les citoyens, et plus on les contrôle par l'administration, mieux ça vaut. Mais ce pouvoir en même temps doit être impitoyable et faible, parce qu'il faut qu'il ait peur pour que le bon sauvage qui est au pouvoir ne prenne pas tout. Et alors la religion là-dedans ? Eh bien, la religion, c'est une des activités humaines qui n'a rien à voir avec le commerce, qui ne regarde pas l'État, qui s'occupe uniquement, normalement, qui s'occupe uniquement de l'enrichissement mutuel. L'État la réglemente simplement en s'assurant que ça ne nuit pas à la paix sociale. Et alors, dans la lettre sur la tolérance, John Locke est très explicite, il dit « la religion, je suis même plutôt pour, parce que les gens qui ont de la religion, enfin il pense surtout aux protestants qu'il a sous les yeux, les gens qui ont de la religion, ils sont braves, ils ont peur d'aller en enfer, ils sont plus portés à respecter les contrats, et on a besoin de moins de police avec les gens qui ont peur d'aller en enfer, qui pensent qu'il y a un Dieu qui les jugera. En plus, ils sont portés à la bienfaisance, ça tombe bien, s'il y a un poids lourd qui crève, ils iront par bienfaisance, par charité, aider le conducteur du poids lourd à changer son pneu, et c'est très profitable, ça favorise le profit de l'ensemble du mécanisme commercial, donc même l'État va être plutôt bienveillant pour les associations religieuses, sauf une. Dans la lettre sur la tolérance, il explique qu'il ne faut pas tolérer la religion catholique, elle est subversive, cette religion est dangereuse. Pourquoi ? Elle prétend qu'elle a une autorité sur les princes, et elle a le droit de leur dire si leurs lois sont légitimes ou pas. Elle prétend deuxièmement que les hommes sont obligés en conscience devant Dieu de s'occuper de leur salut éternel au lieu de s'occuper de leur enrichissement. Donc vous voyez, c'est subversif, cette conception qu'a John Locke, eh bien pour que un catholique est un mauvais citoyen. Parce que lui ne croit pas qu'on est là pour s'enrichir, et il ne croit pas que le bien absolu, c'est l'absence de contraintes. Il croit même plutôt le contraire, et faire des sacrifices, faire des efforts pour devenir meilleur. Donc, voilà, dans le traité du gouvernement civil. Et dans John Locke insiste bien sur le fait qu'on ne doit pas faire de différence entre les bons et les mauvais. Il n'y a pas de différence de moralité. Du moment qu'il n'y a pas d'inconvénient pour l'ordre public, on ne doit pas faire de différence. Alors, l'idéal, John Locke dit, provisoirement, on est obligé de mettre en prison les voleurs. Mais au fond, c'est des copains. Le voleur, c'est quelqu'un qui croit qu'on est sur la terre pour s'enrichir. C'est quelqu'un qui n'aime pas les contraintes. Il aime être libre. Ah, lui, il est bien. Bon, voilà, l'ennui, c'est que si tout le monde était voleur, il n'y aurait plus moyen de faire du commerce. C'est plus moyen. Alors, à regret, on va les mettre en prison. Mais au fond, c'est un copain. Dans Solzhenitsyn, dans l'archipel du Goulag, dit que raconte que dans les camps, les truands étaient appelés socialement proches. Mais c'est pas seulement dans le régime communiste qu'il y a ces gens qui sont. Eux, vous voyez, eux, ils croient au partage des biens, ils veulent même partager un peu trop tôt ou un peu trop vite. Mais ils sont socialement proches. C'est des gens qui sont d'accord sur le fond. Alors c'est à regret. On est obligé de les réprimer, le vocabulaire même du libéralisme. On ne dit pas punir parce qu'il a mal fait pour qu'il devienne meilleur, on dit réprimer. Mais l'idéal, c'est qu'avec le progrès, le développement de la richesse, on arrivera à dépénaliser petit à petit, cesser de réprimer et assurer plus de liberté. Et dans l'optique libérale, la dépénalisation de la petite délinquance est un progrès, la dépénalisation de la drogue ou de l'homosexualité est un progrès. Le développement économique permet de tourner très bien grâce aux assurances, grâce aux soins médicaux, finalement, ça tourne très bien. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir toujours de l'enrichissement avec encore plus de liberté. De moins en moins de contraintes et malgré tout, toujours de l'enrichissement. Et si on réprime quelqu'un, c'est plutôt à regret, sauf, je vous rappelle, les catholiques sont restés des citoyens de seconde zone, et la loi qui en Angleterre interdisait aux catholiques d'être membres de l'administration n'a été abrogée qu'en 1942. Parce qu'il y en a qui, eux, sont subversifs de l'ordre social, et ce n'est pas les voleurs. Les voleurs, eux, ils sont sympas, ils croient à la liberté. Et alors John Locke a un raisonnement typiquement de bourgeois typique pour expliquer que les hommes ne vivent pas en société parce qu'ils aiment les uns les autres. Il dit la preuve, vous savez bien que votre voisin vous déteste, quand vous sortez de chez vous, vous fermez vos portes à clé, donc vous savez bien qu'il ne vous aime pas et qu'il vous prendra tout s'il peut. Voilà, c'est typique. Et puis d'autre part, n'oubliez pas, John Locke a vu la période de Cromwell, il a vu la peur, il a vu l'insécurité, il est en train de dire aux gens, et puis c'est quand même un protestant. Tout cet ensemble de circonstances font qu'il formule intellectuellement, de façon intelligible, quelque chose qui était dans la manière de vivre. Cette théorie, vous sentez bien qu'elle est absurde, des parents et des enfants ne font pas le contrat social. Et la meilleure garantie que les parents traitent bien les enfants, c'est que les parents les aiment. Ce n'est pas qu'ils forment un syndicat des enfants contre les parents. En pratique, on ne vit pas comme ça. Mais comment ça se fait que ça a pu paraître vraisemblable? Parce que ça faisait longtemps que dans un pays protestant, les gens vivaient, avaient cette conception-là que finalement, ce qui compte sur la terre, c'est de s'enrichir. Alors, au fait, pourquoi faut-il un pouvoir alors qu'il pose tant de problèmes à la liberté? Ben, on a vu, parce qu'il faut qu'il fasse respecter les contrats, sinon ce serait la loi de la jungle. Mais le chef, c'est un mal nécessaire qu'on supporte avec regret, qu'on suspecte toujours. Celui qui a le pouvoir est toujours suspect, et il est toujours a priori vaguement coupable. Là, dans la mentalité moderne, vous remarquerez que la brutalité policière est aussi coupable, sinon plus coupable, que la brutalité du délinquant qui a, vous voyez, le violateur de petite fille qui a pris un coup de matraque. C'est plutôt la police qui soulève plus l'indignation que celui qui a violé la petite fille. Parce que dans cette mentalité-là, le pouvoir est malfaisant. Mais on ne peut pas faire autrement, malheureusement. Parce que sans ça, on ne pourrait plus respecter les contrats. Plus il est anonyme, plus il est content. Plus on est content, plus il est administratif, plus on est content. Parce que le bon sauvage agressif et convoiteux se fait moins sentir. Quelle est la garantie que le contrat social correspond bien à la volonté des individus libres et égaux? Eh bien, le vote. Le vote permet d'adapter les lois à l'état actuel du compromis mutuellement avantageux accepté globalement. On considère que le compromis mutuellement avantageux va évoluer progressivement en fonction de la mentalité des gens qui sont élus. Alors évidemment, en Angleterre, c'est plutôt l'establishment qui règle l'évolution des comportements, mais l'establishment se considère pratiquement comme le porte-parole de la conscience profonde du peuple, et ils ajustent, de façon conservatrice, mais ils ajustent le contrat social. Alors vous noterez que dans ce système-là, vous me direz, c'est un système de liberté. Enfin, c'est un système de liberté, c'est la liberté du riche. Parce que parmi les droits fondamentaux, vous avez le droit de propriété. Qu'est-ce que ça signifie, le droit de propriété? C'est le droit de jouir impunément de tout ce qu'on a en laissant crever tout le monde autour. C'est bien, c'est pas chrétien du tout, le droit de propriété. Attention, il n'y a pas un droit absolu de propriété. On a le droit au bien qu'on utilise dans la mesure où il est bienfaisant pour l'ensemble de la société. Quelqu'un qui posséderait un champ et qui ne le labourerait pas, qui le laisserait tomber en friche, en théorie, si vous voulez, il perd son droit, il n'a pas créé son champ. Ce qu'il crée, c'est la plus-value, et la plus-value qui lui profite, du fait de la vie sociale, profite à tous. Mais le droit à propriété, c'est normalement le droit dû et d'usage et d'abus. De même que la liberté d'expression, c'est le droit de mentir. C'est oui. Et c'est plein droit à mentir, d'inventer n'importe quoi. Et on fait comme si le mensonge ou la vérité n'avait aucune importance pour la société. Sauf si éventuellement c'est considéré comme nuisible à l'ordre social. Alors finalement, c'est la tyrannie du riche, parce que la liberté d'expression, c'est bien gentil tout ça. Celui qui a de quoi se payer un journal, il peut exprimer ses idées. Celui qui ne sait pas lire qu'un alphabète, qu'est-ce que c'est que sa liberté d'expression? Ah mais il a droit. On dit, monsieur, vous avez le droit de propriété, mais j'ai rien. Ah ben vous avez droit à rien. Voilà. Mais vous avez le droit de vous exprimer, monsieur. Mais je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, et puis je n'ai pas d'argent, personne pour financer mon film ou mon journal. Ah ben vous avez le droit de vous taire. Alors vous voyez, c'est le despotisme du riche. Et alors la critique de Karl Marx sur le système libéral, le système de Hobbes, elle est fondée, cette critique de Karl Marx. Car en système purement libéral, il est vrai que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. On a dit que cette prévision de Karl Marx était fausse, simplement parce que les sociétés sont restées chrétiennes et qu'on n'a pas vraiment un système libéral. Une société libérale ne pourrait pas exister. L'être humain n'est pas cette espèce de robot inventé par libéralisme. Ça ne peut pas exister. Alors, comme il reste un substrat chrétien, du fait de l'incohérence des gens, ça restait à peu près humain. Mais la critique est fondée. Et alors, l'idée de Karl Marx, qu'est-ce que c'est? Ben, simplement que si tous les hommes sont libres et égaux, et qu'ils acceptent le contrat social à cause de l'enrichissement, eh bien, il faut que l'État intervienne pour que le partage soit équitable. Donc, il va falloir que l'État, qu'on ajoute au droit immunité, vous voyez, l'absence de contraintes en matière de propriété ou en matière d'expression, en matière de déplacement, les droits créances, Chacun aura en plus droit à une part de gâteau minimum garantie par la société. Faute de quoi, c'est pas possible qu'il accepte le contrat social. Vous voyez, c'est logique en système libéral. Le marxisme est une conséquence normale du libéralisme. Karl Marx ne met pas du tout en cause les doctrines fondamentales du libéralisme. L'être humain n'est pas fait pour devenir meilleur sur la Terre, et il est fait pour s'enrichir. Il n'accepte le contrat social que dans la mesure où il a sa part de gâteau. Les sociodémocrates disent on garantit une part de gâteau minimum pour que les pauvres soient contents, et le communiste dit tout est à tous, tout le monde a droit à tout. Évidemment, en société, quand vous dites tout le monde a droit à tout et que vous êtes passé dans la loi, ça se traduit dans la vie pratique par personne n'a droit à rien. Mais parce que ça fonctionne comme ça, la logique sociale n'est pas la logique intellectuelle. Mais on oscille perpétuellement entre le despotisme du riche et le despotisme d'État. Le libéralisme pur, c'est le despotisme du riche, et puis le socialisme, c'est le despotisme d'État. Mais vous voyez que la conception de Hobbes, elle n'est pas si loin de John Locke. Quoi que ce soit des gens de milieux complètement différents, Locke est un grand bourgeois libéral, un grand bourgeois libéral très distingué et plutôt déiste, et de milieux complètement différents, même plutôt opposés au milieu issu de Hobbes. Alors en conclusion, vous reconnaissez bien sûr les caractéristiques du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Conclusion de ce qu'est le libéralisme. Une utopie sans base dans la réalité. En fait, ça repose sur un échafaudage. C'est très séduisant parce qu'on a l'impression qu'avec des idées très simples, on s'explique tout. Vous saisissez aussi d'ailleurs que cette utopie-là elle mène au mondialisme. Au commencement, vous avez les individus, les bons sauvages, où chacun est en guerre contre tout le monde. Ensuite, ils vivent en tribu, la tribu est en guerre contre la tribu voisine, puis les tribus finissent par s'apercevoir qu'il est plus profitable. Enfin, premièrement, les individus se mettent en tribu parce que c'est plus profitable, mutuellement, ils restreignent leur liberté. Les tribus qui étaient en guerre les unes après les autres se rendent compte au bout d'un certain temps qu'elles vont faire du commerce entre tribus parce que c'est plus profitable que de faire la guerre. On arrive aux nations. Puis les nations se font la guerre, comme elles ont beaucoup plus d'argent, ça coûte beaucoup plus cher, ça donne beaucoup plus de sang, et au bout d'un certain temps, ils finissent par se rendre compte qu'il est plus profitable de faire du commerce entre nations que d'être en guerre, et donc on va arriver au mondialisme, c'est-à-dire au grand marché mondial, parce que tout le monde a enfin compris, après la dernière des guerres, que la guerre coûte trop cher et qu'on s'enrichit plus dans la paix et le commerce dans le monde entier. Vous voyez, ils avaient une conception de l'orientation inévitable de l'humanité qui repose sur des petits principes très simples, finalement. Quelqu'un, même pas très très intelligent, a l'impression de tout savoir et d'avoir tout compris. Voilà l'histoire de l'humanité. Et voilà comment on a une conception de la société qui fonctionne très bien sans Dieu, à condition que la religion qu'on force, la religion catholique, à la boucler. Mais on fonctionne très bien comme si Dieu n'existe pas. Alors c'est une utopie sans base dans la réalité. Deuxièmement, c'est une utopie de riches. Les pauvres sont les laissés pour compte de l'utopie. C'est une utopie liberticide parce qu'on oscille entre le despotisme du riche et le despotisme d'État. L'absence de contraintes, et c'est le despotisme du riche, ou bien l'État impose l'égalité de tous, mais alors c'est par le despotisme, c'est le communisme. Et enfin, c'est une utopie aussi antisociale parce que la base de la vie en société, en système libéral, c'est le contraire de la vie en société. On donne comme idéal d'arriver ultimement à une société où personne n'aime personne et personne ne se contraint en quoi que ce soit pour les autres. C'est exactement l'antithèse de l'amitié sociale. C'est-à-dire, c'est concevoir comme base de la société ce qui est le contraire de la société. Vouloir fonder la société sur l'égoïsme de l'individu. Et ce qui est le contraire de la vie sociale. Donc l'utopie étant antisociale, plus elle se développe, plus elle rabote, plus elle détruit la personnalité humaine. Car Aristote a tout à fait raison, c'est vrai que l'être humain est éduqué par la cité. Quand les lois de la cité sont très bonnes, ça donne une civilisation, c'est-à-dire que l'être humain atteint le meilleur potentiel qu'il soit capable d'acquérir. Au contact des autres, avec l'aide des autres, dans le domaine artistique, dans le domaine intellectuel, dans le domaine physique, dans le domaine de l'entraide mutuelle, même dans le domaine religieux, l'être humain atteint son achèvement. Et alors, si vous avez une utopie sociale qui détruit la notion de société, eh bien vous détruisez l'être humain. Et j'arrive à la réponse, hein, quelqu'un m'avait posé la question, comment se fait-il que le libéralisme mène à la destruction de la liberté? Eh bien, sa conception de la liberté. Qu'est-ce que c'est vraiment que la liberté? La liberté, c'est le pouvoir de choisir entre un très grand nombre de possibilités. Évidemment, pour avoir le pouvoir de choisir, plus l'être atteint sa perfection, plus le nombre de choix est grand. Vous voyez, un être analphabète, le bébé abandonné dans le désert, sans père, sans mère, qui va mourir, qu'est-ce qu'il a comme liberté? Mais il n'a rien. Par contre, l'adulte, éduqué, ayant derrière lui un capital de bagage de culture, l'habitude qui a été éduqué à penser, à raisonner logiquement, chez qui les talents artistiques ont été développés, les talents, le goût de l'esthétique, les qualités religieuses, tout cet ensemble, les potentialités humaines ont été développées, cet homme-là a un avantage de possibilités beaucoup plus grand, et il a d'autant plus de liberté qu'il a plus de potentialités. Dieu est parfaitement libre parce qu'il peut tout, mais d'une façon limitée, l'être créé a d'autant plus de liberté que son développement humain est plus grand. Donc la liberté, vous voyez, ça n'est pas en soi l'absence de limites ou l'absence de contraintes, c'est la capacité, la capacité à faire beaucoup plus, plus on peut faire de bien, plus on est libre. Voilà. Et la définition libérale de la liberté, l'absence de contraintes, l'absence de limites. Cette absence de limite, c'est une absence de détermination. Par exemple, le bébé abandonné dans le désert, il n'a pas de parents pour lui dire que c'est bien et c'est mal, il n'a personne pour le fesser, il n'a personne pour l'embêter, pour l'empêcher de faire ses caprices, mais est-ce qu'il est libre? Ben non, il va mourir. Un caillou, il a une absence de contrainte, il n'a pas de loi, il n'a pas de morale, il n'a pas de religion, il n'a pas de Dieu, oui, il n'a aucune limite. Ben oui, mais il n'est qu'un caillou. C'est-à-dire que l'explication, vous voyez, l'explication, pourquoi le libéralisme finit-il par détruire les libertés réelles en ôtant les barrières, ôte-t-il les libertés réelles? Ben, imaginez que vous arrachez les racines à un arbre en disant, il est déraciné, il va pouvoir courir comme un lapin. Il ne va pas courir comme un lapin, il crève. Imaginez, vous avez une grenouille, avec sa cervelle, son instinct de grenouille, elle est limitée, elle a des contraintes, c'est la limite de grenouille, elle est obligée d'être une grenouille avec ses instincts de grenouille. On va la décérébrer avec un tire-bouchon, vous savez, comme les lycéens font, et décérébre la... Bon, et puis après ça, elle va devenir intelligente, elle est plus limitée par son instinct, alors une grenouille libre, ben, il n'y a pas une grenouille libre, vous savez qu'une grenouille décérébrée, ben, elle crève tout simplement. Ce que je veux vous faire saisir, c'est que la liberté du libéralisme, l'absence de limite, à la perfection, c'est le néant. C'est-à-dire qu'on se heurte, à propos de la liberté, au paradoxe de Hegel. Je ne sais pas si vous connaissez le paradoxe de Hegel. Hegel disait, Dieu est souverainement libre. Or, la souveraine liberté, c'est l'absence de détermination, l'indétermination pure. Or, le néant est purement indéterminé. Donc, Dieu est le néant. Eh bien, le libéralisme vous donne comme base à la liberté l'indétermination pure. Mais être indéterminé, c'est pas être libre, c'est ne pouvoir rien faire. Vous voyez, être indéterminé, l'enfant il est peut-être indéterminé, il n'est pas encore violoniste, il n'est pas encore capitaine de navire, il ne sait encore ni lire ni écrire, mais il n'est pas libre. Il n'aura sa liberté que dans la mesure où ses qualités humaines auront été développées. Et Aristote a raison de dire que l'être humain trouve son achèvement par la société, les qualités humaines se développent d'autant mieux que la société est plus parfaite. Et le libéralisme, en amputant la société humaine de toutes ces autres dimensions que la dimension économique, ampute en même temps l'être humain. Ça vous explique pourquoi, dans un monde où on dit « mais vous avez plein de libertés, regardez, la liberté des homosexuels, la liberté de la drogue, la liberté de brûler la voiture du voisin, c'est beaucoup mieux avant les rouets, maintenant, mais non, on est très... » Vous voyez, plein de libertés. Et vous apercevez que... Il y a des règlements partout, vous ne pouvez pas construire un bout de cheminée ou repeindre votre volet sans demander un permis de construire. Vous apercevez que, il n'y en a pas. Si, il y en a. Pourquoi? Parce que la liberté libérale, ce n'est pas la liberté. C'est l'absence de contraintes, mais en même temps, ça détruit les potentialités humaines. Alors l'aboutissement normal du libéralisme. Eh bien, vous voyez que le libéralisme, en orientant toutes les activités humaines vers la production de richesses, a un gros succès initial. Il faut reconnaître qu'à partir du moment où tous les hommes d'une nation, pratiquement du fait de l'éducation, de l'atmosphère ambiante, considèrent que ce qui compte le plus, c'est la production de richesses. Mais il y a des résultats, qu'est-ce que vous voulez? On constate qu'à partir de 1830 environ, dans les pays d'Europe du Nord, quand le libéralisme s'installe dans la politique, dans les mentalités, vous avez le PNB qui croît, qu'est-ce que vous voulez, la courbe grimpe. Vous avez un doublement du PNB pratiquement de 10 ans en 10 ans pendant jusque vers le début du siècle, pratiquement jusque vers 1914. C'est impressionnant. Un succès initial. Ça marche. Un enrichissement considérable. Toute l'activité humaine, toute l'activité de l'intelligence humaine est embrigadée dans la production de richesses. Seulement quand on étudie bien la courbe, on s'aperçoit aussi que les prélèvements de l'État avec une génération de retard, c'est-à-dire que vous avez grosse croissance du développement économique vers 1830, mais vous prenez 10 ans plus tard, 1840, 1850, vous apercevez que de 20 ans en 20 ans, le budget de l'État double. Ah, c'est impressionnant quand on regarde les deux courbes. Alors au départ, la production de richesse est telle que le budget de l'État qui décolle est loin en dessous. Donc au départ, les gens ne sentent pas tellement ce décollement des charges de l'État. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où la production est à la limite, on fonctionne à flux tendu pour arriver à optimiser au maximum la production, mais l'État ponctionne, c'est-à-dire qu'on arrive au stade où le prélèvement de l'État dévore toute l'augmentation de richesse. Pourquoi au fait ? Eh bien, parce que les hommes ne vivent pas, ne sont pas des bons sauvages. Les hommes qui vivent en société sont unis par des liens très complexes. L'estime mutuelle, l'admiration mutuelle, l'amitié, la gratitude, le besoin de soutien, le désir de bienfaisance. C'est très complexe, les relations humaines. Le libéralisme, en amputant la vie sociale d'une multitude de ses facettes, les dessèche les unes derrière les autres. C'est-à-dire que les relations humaines qui ne se chiffrent pas en termes d'argent ne valent plus en système libéral. Alors ils continuent, par habitude mentale, ça continue à fonctionner. Les gens, pendant quelques années, auront encore de la générosité, il y aura encore des mécènes qui auront de la générosité pour des artistes, il y aura encore des gens désintéressés qui accepteront d'être pauvres et d'étudier la philosophie, vous aurez encore des gens qui accepteront d'être pauvres et puis de faire de l'astronomie, vous trouverez encore pendant un certain temps des gens qui accepteront de vivre misérablement et puis d'entretenir la vieille demeure familiale parce qu'ils ont de l'attache à cela. Mais au fur et à mesure que les générations passent, eh bien, il y en a de moins en moins qu'ils veulent, ça se dessèche, ça perd sa valeur, c'est plus gratifiant, c'est même plus estimé, ça n'est plus estimé dans l'environnement social. En sorte que petit à petit, l'État est obligé de remplacer par des béquilles administratives des fonctions qui existaient toutes seules. L'État va être obligé d'avoir partout des maisons de vieillards, d'avoir partout des crèches pour s'occuper des enfants, d'avoir des systèmes des services sociaux, alors qu'autrefois dans le quartier on abandonne, ou dans le village, la personne qui est dans le besoin trouvait toujours le moyen d'être. Il y avait assez d'entraide pour que ça fonctionne à peu près tout seul. Aujourd'hui, c'est impossible, il faut des assistantes sociales, toute une infrastructure, toute une planification, toute une intervention, une administration qui se développe, qui installe des béquilles sociales au fur et à mesure que les mécanismes naturels, c'est difficile à exprimer, les mécanismes vitaux de la société se dessèchent les uns derrière les autres parce que seuls sont valorisées les relations qui se traduisent par un profit financier, un profit en argent, chiffrable en termes d'argent. Même en matière religieuse, vous savez, vous supprimez un curé, il faut 10 policiers. Ça s'est vérifié entre la France, le Paris de Louis XVI et le Paris de Napoléon Ier. Il s'est écoulé très peu de temps, la population est à peu près identique, les mœurs étaient à peu près semblables. Sous Louis XVI, il y avait 50 archers pour assurer la paix à Paris et la sécurité à peu près identique à la sécurité qui existait sous Napoléon. Sous Napoléon, il fallait 4000 policiers pour tenir là. Et au fur et à mesure que vous ôtez dans le libéralisme, vous avez beaucoup de contraintes, pas de contraintes morales et puis beaucoup de police. Dans une société chrétienne, pas de police et beaucoup de contraintes morales. Mais c'est librement, c'est-à-dire que c'est vrai. C'est pas une contrainte, c'est vrai. Et c'est vrai, à partir du moment... Alors vous voyez, on hésitera encore à voler dans un supermarché parce qu'il nous reste 20 graisses d'éducation, mais la génération qui a été éduquée absolument sans rien, toutes les fois qu'ils peuvent voler, ils volent, ils n'ont aucune mauvaise conscience, et ça se comprend très bien. Et donc, on installe dans les supermarchés des tas de systèmes, tout est surveillé. Maintenant, je crois que les objets à vendre ont des puces électroniques qui mettent en route des systèmes d'alerte si jamais on a essayé de démarquer ou bien de cacher dans sa poche. Mais c'est des trucs qui coûtent cher, simplement parce que l'effritement de choses qui ne se voient pas, la disparition de la morale, la disparition du curé, la disparition du catéchisme, la disparition de ces choses ne se voient pas. Mais elle doit, ça se paye la génération suivante, l'État est obligé de compenser. Et alors nous arrivons, dans les pays européens, on tâche de compenser par des aides sociales, aux États-Unis, eh bien on sacrifie froidement des pans entiers, on abandonne des zones, des villes entières, on s'en occupe pas, et puis simplement on encadre par de la police. Mais enfin à terme, ça... un système comme l'autre coûte très cher. L'un comme l'autre système coûte très cher, ponctionne de plus en plus. Alors le libéralisme, si il n'y avait pas le phénomène dont je vous parlerai la semaine prochaine, ce phénomène très curieux des révolutions, le libéralisme finirait par la mort tiède. C'est-à-dire un moment où la ponction de l'État atteint ou dépasse l'augmentation de richesse et puis ça stagne. C'est-à-dire que vous auriez ce qu'était le socialisme dans les pays de l'Est. La pauvreté avec une dette écrasante de l'État et puis un marasme généralisé. La mort tiède. Voilà ce que serait le... On est toujours puni par où on a péché. Le libéralisme est un péché social qui cherche l'enrichissement aux dépens de tout le reste. Et la punition, c'est qu'à terme, c'est la ruine économique. Seulement, de fait, c'est pas comme ça que finira le libéralisme, pour une raison dont je vous parlerai la prochaine fois. Les idées libérales perturbent. La société n'est pas quelque chose qui existe dans l'abstrait. La société est quelque chose qui existe dans le cerveau de l'être humain. Dans le cerveau de l'être humain, une fois qu'il vit en société, il y a des mécanismes automatiques qui se mettent en route et qui assurent sa sociabilité. Quand il a des idées libérales, ça perturbe ses mécanismes psychologiques et le comportement devient... Il y a des périodes de crise où le comportement devient absolument délirant. Il se calme et il devient délirant. Il y a eu nous avons derrière nous deux révolutions qui correspondent à ces crises presque de fièvre ou de maladie sociale collective. La Révolution française, la Révolution russe. La Révolution française, on peut la résumer par ces paroles, la liberté ou la mort. La Révolution russe de 1917, on peut la résumer par ces paroles, l'égalité ou la mort. Et celle qui nous attend, qui est imminente, la troisième, la dernière, la révolution dont le théoricien est Marcuse, c'est la fraternité ou la mort. La troisième, c'est ce dont je vous parlerai la prochaine fois. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
C'est 7Q5, c'est Saint-Marc, chapitre